France Inter, le 18-20.
Peut-être que vous avez remarqué, comme moi, au fil des derniers mois, vous êtes à une soirée et spontanément, les fumeurs fument à la fenêtre, voire vous demandent s'ils peuvent même en griller une. À une époque, on vous demandait surtout où était le cendrier, puisque vous avancez en âge, comme moi. Autour de vous, vous êtes cerné par ceux qui ont arrêté en une fois, en plusieurs fois, avec patch, sans patch, ceux qui vapotent ou pas, ceux qui ont craqué une fois, deux fois ou pas, ceux qui sont super zen et se sont remis au jogging, ceux qui font le désespoir de leurs collègues de travail, j'en connais, ceux qui se vengent sur le chocolat, mais si on fait le compte, 1 million au moins. 1 million, enfin, 1 million de fumeurs qui ne le sont plus en un an. Enfin, un chiffre significatif qui dit que les politiques publiques ont l'air de fonctionner, que le mix du paquet neutre, du prix de vente en hausse, du remboursement des patchs finit par payer. Peut-être que c'est devenu plus ringard aussi de fumer, que les jeunes donc commencent moins. En tout cas, il se passe peut-être quelque chose. Parlons-en donc ensemble, vous qui êtes des héroïques, des pathétiques, des prises de panique de l'arrêt de la clope, ou peut-être les trois à la fois, vous qui avez arrêté, qui cherchiez à arrêter, qui avez re-re-arrêté, repenti de tous les pays, donnez-vous la main, ça pourrait peut-être aider les autres.
Fabienne Saint-Esse. Le téléphone sonne.
Et la voilà, la première repentie. Bonsoir Laure.
Bonsoir.
On vous écoute Laure, soyez la bienvenue, c'est vous la première.
Merci. Écoutez, moi j'ai commencé très tôt ma cigarette, vers 18 ans en arrivant à Paris. Et ça a été pendant 10 années, j'ai quand même pas mal fumé, c'était assez souvent. Et puis du jour au lendemain, on va dire ça s'est fait petit à petit parce que je commençais à regarder des films, des documentaires sur le tabac, mais au bout de 10 ans, et puis l'augmentation toujours du paquet, j'ai commencé à faire les comptes et c'est vrai que dans le mois c'était effarant, quoi. C'était 300 euros, peut-être 250. Donc pour mon petit budget d'étudiant, c'était pas possible du tout. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter. Ouais.
Et c'était quand ça?
C'était l'année dernière, jour pour jour. 1er juin, presque.
Et ben voilà, donc vous avez presque un anniversaire à fêter, Laure.
C'est ça.
Et sinon, ça va comme vous voulez, vous n'avez tué personne, vous vous sentez comment?
Parfois, je rêve encore que je fume des cigarettes le matin, j'ai ça en ce moment. Mais sinon, avec les patchs, et puis j'essaie de faire du sport, beaucoup plus de sport.
Et ben voilà, Laure, la méthode Laure pour arrêter de fumer, méthode somme toute assez classique, mais néanmoins efficace. Bonsoir Anne Borgne.
Bonsoir.
Vous êtes médecin addictologue et bonsoir Bertrand Dotzenberg. Nous y voilà, vous êtes pneumologue, secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. Méthode classique que celle de Laure, mais néanmoins efficace.
Ben, Laure dit qu'elle a arrêté toute seule, mais elle a mis des patchs. Donc, elle a arrêté toute seule comme il fallait, donc elle était bien formée. Je ne suis pas d'accord avec le lancement de votre émission. Vous dites qu'elle est repentie. Hein. Repentie, c'est quand on est coupable qu'on est repenti. Quand on a commencé à fumer adolescent comme Laure et qu'on fume adulte, c'est qu'on est malade, qu'on est une victime. Il n'y a pas à se repentir d'avoir été une victime de l'industrie du tabac qui s'est acharnée à vous inoculer dans le cerveau des récepteurs nicotiniques. Quand on fume malgré
soi. Disons que chaque fumeur prend sa part de responsabilité.
Non, la part de responsabilité, c'est ceux qui disent aux fumeurs qui sont responsables. Quand on fume la première cigarette du matin, c'est pas qu'on veut la fumer, c'est que votre corps l'exige, parce que votre corps a été formaté à ça quand on est enfant, et donc le rôle des médecins, des tabacologues, c'est de déformater le corps des fumeurs et de leur donner de la nicotine non fumée, comme a fait Laure pour arrêter de fumer en douceur, et c'est facile.
Anne Borgne.
Oui, c'est très intéressant le témoignage de Laure parce que ça réunit beaucoup de changements dans la perception du tabagisme. Elle a parlé de l'augmentation du prix, que ça a fonctionné sur sa motivation, que ça lui coûtait trop cher. Elle a parlé des traitements donc qui étaient disponibles, les substituts nicotiniques. Il me semble qu'elle n'est pas si vieille que ça. Elle a arrêté jeune sans problème. Et donc ça montre bien que toutes les actions qui sont mises en place de toutes ces dernières années, c'est pas une seule qui fonctionne, c'est tout ensemble.
Mais pourquoi tout d'un coup quand même, ce million d'un coup, ça paraît très étonnant. Il y a même beaucoup de sceptiques, Anne Borgne, avec quelques messages sur le hashtag du Telson qui disent « Ouais, mais c'est parce que le prix est devenu cher, donc du coup, on va chercher les cigarettes ailleurs.
Ouais. » Alors, dans le million qui ne fume plus, il y a ceux qui ont arrêté, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas commencé. Mm-hmm. Puisqu'on a constaté que la baisse du nombre de fumeurs, elle était très importante chez les jeunes. Et ça, c'est un signal très très fort pour l'avenir, justement, de la baisse du nombre de fumeurs. Donc, ce million-là, c'est aussi ceux qui n'ont pas commencé.
Mais est-ce qu'il s'est passé, parce que il y en a eu avant, en fait, des politiques anti-tabac. Là, visiblement, quelque chose de plus, ou pas, en fait, Monsieur Dotzenberg?
Non, mais en 2003, quand Jacques Chirac a dit « je déclare la guerre au cancer », ça fait strictement la même chose et même un peu plus. On était à plus d'un million. Là, c'est les effets qu'on a mesurés. Là, le million de fumeurs en moins, ce n'est pas sur les données récentes, c'est sur les données 2016 jusqu'à mi-2017.
Donc, c'est peut-être, vous allez dire, pire encore, mieux encore.
Ça va être mieux encore après. Mais un million de fumeurs en moins, ça alors que la France était le 27e pays sur 28 dans l'Union européenne pour le nombre de fumeurs, on a gagné quelques places, mais on est toujours en queue de peloton. C'est très bien, mais il y a encore du chemin à faire. Et ce qu'il faut faire, c'est le chemin à la bonne vitesse. Un million ou 2 millions de fumeurs en moins par an, c'est bien. Comme ça, dans 10 ans, il n'y en aura plus trop. Il ne faut pas aller plus vite non plus. Et là, ce qui s'est passé sur les ventes en janvier est tout à fait bien. Là, vous avez fait une remarque sur les achats transfrontaliers et tout ça, la contrebande. En ce qui concerne les consommateurs, c'est une remarque qui est strictement, qui n'a rien à voir. Parce qu'on n'a pas demandé aux gens où avez-vous acheté vos cigarettes, comme on le fait tous les mois chez les
pluralistes. C'est pas sur le nombre de cigarettes vendues.
C'est le nombre de fumeurs. Oui, ça veut dire
c'est
que
pas sur la vente qu'on calcule.
Le nombre de cigarettes vendues avait même diminué à peine, en fait, sur cette année-là. Parce que, en fait, comme les prix n'avaient pas augmenté, les gens allaient moins acheter en Belgique leurs cigarettes. Peut-être là qu'ils sont retournés à 1 ou 2% de plus en Belgique, mais c'est anecdotique les achats transfrontaliers en termes de santé publique. En termes de masse, c'est une masse importante, mais c'est pas ça qui empêche. Si on fait des cigarettes pas chères, par exemple la Corse a des cigarettes 25% moins chères, ils ont donc 25,7% de plus de cancer du poumon. Ils ont le cancer du poumon le moins cher, donc c'est une grande victoire de santé publique pour eux, disent-ils. Je trouve ça un peu stupide.
Donc ça veut dire que le prix est quand même parmi les arguments qui fonctionnent le mieux, vraisemblablement.
Qui va fonctionner le mieux, parce que là, on a une augmentation de 10%. Et l'année prochaine, on va voir qu'il y aura 1 million, 1 200 000, 2 millions de fumeurs en moins.
Parce que je vous pose la question, parce qu'il y avait beaucoup de vos collègues, Anne Born, qui disaient c'est dommage, finalement, d'augmenter en deux fois. Et que ce qui fonctionne très bien, c'est subitement une hausse terrible, en fait.
Ce qui fonctionne le mieux, c'est des marches importantes à gravir. Et que les petites augmentations, on a vu ces dernières années, il y a eu peu de répercussions de petites augmentations du prix, parce qu'en effet, les ménages s'adaptent à cette augmentation du prix. Donc il faut des augmentations très importantes et régulières. C'est-à-dire que quand on arrête d'augmenter le prix, la consommation repart.
Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Et vous êtes Corse, Pascal, vous alors ?
J'habite en Corse.
Eh bien, voyez, vous êtes la démonstration par l'exemple de ce qu'on disait à l'instant. Mais vous êtes quand même vous avez quand même arrêté en 98, donc.
J'ai arrêté en 98, j'habitais Paris.
Ben c'est pour ça.
je vous redonne le contexte. Je travaillais dans un bar-restaurant, donc à l'époque enfumé.
Eh ouais.
J'étais en instance de divorce, en instance de licenciement, tout allait bien. Et puis un soir je rentre et j'étais vraiment très essoufflé et j'ai réagi un peu comme l'auditrice avant moi. J'ai fait un calcul, mais pas pour le mois, pour l'année, en sachant que je fumais 2 paquets par jour. Et j'ai vu que cette somme rondelette aurait pu permettre des vacances pour mes enfants, par exemple. Et puis je me suis dit que je me considérais comme un individu libre. Mais pas tant que ça, puisque j'étais prisonnier de ces bâtons de tabac. Et de réflexion en réflexion, je me suis promis d'arrêter le lendemain, mais un peu comme une promesse d'ivrogne qui dit non, je boirai plus demain, je fumerai plus demain. J'avais déjà fait des essais. Le lendemain, j'ai mis le paquet dans la poche. La première envie de cigarette, je me suis dit t'attends une demi-heure. Et c'est passé plus qu'une demi-heure avant que la deuxième envie se réveille. Je me suis dit donc que je pouvais doubler ce temps-là. Et puis, d'heure en heure, j'ai repoussé ma première cigarette. En fait, il n'y en a plus jamais eu.
Et vous avez jeté le paquet ?
J'ai donné le paquet à quelqu'un qui m'a demandé une cigarette.
Qui a dit voilà.
On ne donne pas la mort.
Pas de patch, pas de... Voilà, oui, c'est ça. Oui, j'ai fait un peu un cadeau empoisonné. Pas de patch, pas de nicorette, pas d'énervement, pas de stress, pas de boulimie.
Pas de
ça
kilo.
S'est passé, mais vraiment...
C'est tellement injuste.
Non. Ben, j'ai grossi après, mais pour d'autres raisons.
Ah ben, vous me rassurez. Ça me fait plaisir, Pascal, ce que vous nous dites. Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je trouve ça plutôt drôle, Anne Born, parce que tout le monde a sa méthode, en fait. Et tout le monde a la bonne, au final. Enfin, il suffit que ce soit la sienne.
Tout à fait. On parlait tout à l'heure des traitements qui existent. Ces traitements sont faits pour les fumeurs qui n'arrivent pas à arrêter de fumer seuls, qui prennent la décision et qui se retrouvent dans des états justement d'irritabilité, de prise de poids, d'insomnie, donc le syndrome de manque de nicotine et ce syndrome de manque les pousse à refumer. Donc c'est dans ces cas-là qu'il faut se faire aider et avoir soit des traitements, soit la cigarette électronique, on pourra en parler, un apport de nicotine. Ce monsieur est tant mieux pour lui et bravo de ce que vous avez fait et que ça soit passé aussi confortablement. C'est quand même pas toujours comme ça. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup de fumeurs pour qui c'est difficile d'arrêter sans avoir un traitement ou un accompagnement.
Ou passer d'un traitement à l'autre, d'ailleurs, Bertrand Dotzenberg. Des fois, on fait l'erreur, on se dit, ah bah, si j'ai arrêté comme ça, je ne touche à rien d'autre, alors qu'on peut essayer un coup d'hypnose, un coup de patch.
En moyenne, les fumeurs qu'on voit ont essayé d'arrêter 2-3 fois, d'arrêter de fumer, n'ont pas réussi. Après, quelqu'un qui réussit avec une méthode complètement bidon, s'il a réussi, ça ne gêne pas du tout. Quelqu'un qui veut.
Qu'il écrive un livre.
Mais tous les gens qui, a priori, veulent faire sans effort, je leur raconte le monsieur qui était coincé sous sa pierre dans le canyon et qui se coupait le bras avec son couteau pour se sortir du canyon. Je dis, on peut faire comme ça, mais il faut mieux appeler le 15 qu'on a le téléphone, quand même. C'est-à-dire qu'il y a des moyens plus simples d'arrêter de fumer maintenant peut être un plaisir et pas une souffrance, et on peut le faire. Mais quelqu'un qui tout d'un coup a un choc violent, qui apprend que son père a un cancer, n'importe quoi, il y a des gens qui arrêtent des fois sur un coup de tête, comme on dit, et de façon efficace. Mais la plupart des gens qui arrêtent bien aidés avec la bonne dose de nicotine, ils prennent beaucoup moins de poids, ils sont plus calmes et c'est plus sympathique pour l'entourage.
Tiens, cette question sur franceinter.fr, une cigarette par jour, mais depuis très très longtemps, mais je crois que je n'ai pas du tout envie d'arrêter. Faut-il arrêter juste une, nous dit Claire. Faut-il laisser, laissons sa cigarette à Claire.
Non, je ne serai pas la parole à Bertrand Dotzenberg, qui pourtant est pneumologue et connaît mieux le sujet que moi, mais le problème de la petite consommation de tabac, c'est que le risque de cancer est plus lié à la durée du contact avec la fumée du tabac qu'à l'intensité, qu'à la quantité qu'on fume. Donc, quand on fume une cigarette par jour, on prend un risque d'avoir un cancer du poumon qui est plus important que si on ne fume pas du tout. C'est pour ça que l'idéal, c'est cigarette zéro. En plus, quand on fume une cigarette par jour, c'est qu'on aime et qu'on la tolère, et on ne sait pas si un événement de vie, positif ou négatif, va pas conduire, du coup, à développer sa dépendance et à se mettre à fumer plus et à devenir complètement accro à cette cigarette.
Bertrand Dotzenberg.
Une cigarette par jour aussi augmente le risque cardiovasculaire, à peu près la moitié d'un paquet par jour sur le risque de faire un infarctus, une hémiplégie. Mais pour savoir ce qui se passe et si elle est vraiment libre, elle a qu'à arrêter pendant un mois, elle voit ce qui se passe. S'il se passe vraiment rien,
non, c'est qu'elle est... elle dit pas ça, Claire, elle dit qu'elle a pas envie, quoi, parce que c'est du plaisir, et ça compte tellement.
Alors, la cigarette, c'est vraiment pas du plaisir, surtout pour ceux qui fument plus. Alors, une cigarette par jour, ça dépend, mais si c'est tous les jours, ça ressemble vraiment pas à des cigarettes plaisir. Les gens qui prennent quelques cigarettes de temps en temps par plaisir, c'est des gens qui fument irrégulièrement. Un jour, quand il y a la fête, on fume, comme beaucoup de gens se comportent avec l'alcool. Celui qui est obligé de prendre son alcool tous les jours, il a peut-être un peu moins de plaisir que ceux qui peuvent rester une semaine sans alcool ou sans tabac. Vraiment, quand on veut savoir si on est dépendant ou pas, on arrête une semaine, on arrête 15 jours. S'il ne se passe rien, c'est bon signe. Mais s'il se passe quelque chose, il faut réviser son diagnostic.
En même temps, cette personne qui a envoyé ce message, elle fait ce qu'elle veut. On lui donne juste de l'information. Elle est complètement libre absolument. De continuer à faire comme elle veut.
Claire, on vous a plombé votre soirée, on s'excuse. Mais voilà, vous avez votre réponse, en tout cas. Bonsoir, Romaine.
Oui, bonsoir à toutes et tous.
Soyez la bienvenue, Romaine, on vous écoute.
Bon, merci beaucoup. J'enlève le haut-parleur.
Voilà. Oui, c'est mieux, ouais. Allez-y. Ah, voilà, c'est parlez bon, sans
voilà.
crainte.
Alors voilà, je suis contente de vous avoir parce que j'ai constaté quelque chose qui me semble d'importance à diffuser dans le type de façon d'être addict. Parce que je pense qu'on n'a pas forcément tous la même. Parce que voilà, alors moi, je viens d'une famille terriblement tabagique. Alors papa, c'était Steve Gainsbourg, c'était 3 paquets de gauloises. Maman, ma sœur, mes cousins, les grands-mères, mais elles ont réussi à arrêter à la cinquantaine. Les tatas, enfin, mais incroyable. Hein. Je sais, ben ça, j'aimerais bien comprendre un jour pourquoi, mais bon, voilà. Il y en a qui sont arrêtés.
Mimétisme, voilà, non, j'imagine, quand il y a de la permissivité.
Non, mais à ce point-là, c'est impressionnant, quoi. En plus, c'est un milieu... plutôt on fait attention à sa santé, on est précautionneux, bon. Voilà. Alors, bon, moi, j'ai jamais essayé de m'arrêter vraiment réellement parce que je me sens pas y arriver. Par contre, j'ai alterné avec la cigarette électronique. J'ai alterné parce que j'arrivais pas à totalement remplacer les cigarettes. Bon, là, il se trouve que malheureusement, j'ai eu des personnes proches qui sont parties, là, à qui je donnais énormément, et ça m'a refait fumer, mais vraiment beaucoup, quoi. Et j'en ai super marre, mais je n'arrive pas à... Je n'arrive pas. Et alors, ce que je voulais, vous dire comme constat, c'est que j'ai remarqué que avec la cigarette électronique, la nicotine, même à taux faible, je ne l'aime pas. Donc en fait, c'est pas pour moi, il s'agit pas de nicotine. Il s'agit du passage de la fumée dans les poumons.
Je comprends pas très bien en fait ce que vous êtes en train de nous expliquer, Romaine.
Je suis en train de vous expliquer qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le passage de la fumée d'avaler la fumée, ce passage dans les poumons qui donne quelque chose qui fait que c'est difficile de se détacher de cette sensation.
Ah oui, d'accord. Ce que vous aimez, c'est ça, et donc c'est pas la nicotine, en fait, c'est ça. Ah bon.
Oui, mais comment vous le savez? Parce que là, c'est la vendeuse du magasin de cigarettes électroniques qui m'a parlé de ça en parlant de la quantité de fumée que donnait chaque modèle et que etc.
Écoutez, Romaine, il y a quelque chose qu'on retient autour de cette table, c'est que vous avez très envie d'arrêter. Pour l'instant, vous ne savez pas comment, mais au moins la chose positive, c'est ça. D'abord, Monsieur Dotzenberg, est-ce que c'est possible que le plaisir de Romaine, ce qui la rend le plus addict possible, c'est ce moment où d'avaler la fumée, ou ça n'a rien à voir?
Non. Quelqu'un qui fume le matin dès le réveil fume parce qu'il est drogué, qu'il a besoin. Le matin, il est en hypo. Mmh. Quand on est en hypoglycémie, le traitement, c'est de prendre un sucre. Quand on est en hyponicotinémie le matin, parce qu'on a fumé tellement de cigarettes qu'on a plein de récepteurs nicotiniques, le traitement, c'est de donner de la nicotine. Il faut donner de la nicotine de façon plaisante. La cigarette électronique peut apporter de la nicotine de façon plaisante. Si je crois comprendre, c'est une très grosse fumeuse, il en faut beaucoup, il y a intérêt à lui mettre en plus un patch, deux patchs, trois patchs, je ne sais pas combien elle fume, et la cigarette électronique. Et la cigarette électronique ne marche bien que si elle lui fait plaisir. Donc la marchande qui lui raconte des histoires de physiologie, elle n'en a rien à faire, elle va dans la boutique. Cigarette. Si ça lui plaît, ça va, si ça ne lui plaît pas, elle ne le fait pas. C'est comme pour s'acheter des chaussures, la marchande peut vous dire c'est des belles chaussures, si ça vous fait mal aux pieds, la croyez pas, croyez vos pieds. Là, il faut croire le consommateur.
Anne Borne, complètement d'accord avec ce que dit Bertrand Dotzenberg sur le besoin en nicotine, la dépendance et de remplir ses récepteurs dans le cerveau de nicotine. Et ce qu'on sait avec la cigarette électronique, c'est que il y a des expériences négatives avec certains modèles, avec certains liquides, avec certaines façons de l'utiliser. Je vous donnerai juste un exemple d'une dame que j'ai vue aujourd'hui, que je vois pour d'autres addictions, puisque je suis addictologue, je vois aussi les gens pour d'autres addictions que le tabac, et qui, en même temps qu'elle traite ses autres addictions, a décidé d'arrêter de fumer. Donc elle a substitué par des patchs, etc. Et elle me disait: j'ai essayé de vapoter, mais ça me plaît pas, j'y arrive pas, ça me fait pas plaisir, etc. Elle est venue assister à un groupe qu'on organise dans notre centre avec la Vabuqueur, donc une association avec des bénévoles qui viennent expliquer et qui font tester la cigarette électronique. Donc le groupe, c'était la semaine dernière. Elle est revenue aujourd'hui en me disant: c'est génial, il m'a trouvé ma façon de vapoter, le liquide qui me convenait et la bonne cigarette électronique. J'ai arrêté de fumer depuis que j'utilise cette cigarette électronique. Donc c'est pas la cigarette électronique, c'est celle qui vous correspond.
Est-ce que le fait que le geste soit, parce que moi c'est ce qui m'a fait peur, c'est pour ça que je suis jamais passée la cigarette électronique. Est-ce que le fait qu'il y ait le même geste, c'est-à-dire avaler de la fumée, souffler de la fumée, peut amener directement à reprendre la cigarette? Est-ce qu'on reprend plus facilement parce qu'on vapote ou pas du tout?
Non, pas du tout. Oui, c'est tout à fait l'inverse. Ce qui est très étonnant avec la cigarette électronique, justement, c'est le nombre de fumeurs qui se sont mis à faire comme madame, c'est-à-dire à vapofumer, en se disant: je vais essayer de supprimer certaines cigarettes ou certains jours, et qui, du coup, ont trouvé un autre plaisir, pas la même sensation, c'est un autre plaisir d'utiliser la cigarette électronique, et qui se sont mis à arrêter de fumer alors que c'était pas leur projet de départ. Parce qu'ils ont trouvé un confort avec l'apport de nicotine et les sensations différentes, mais agréables, procurées par la cigarette électronique.
Il y a autre chose que m'inspire le témoignage de Romaine avant qu'on retourne au standard, c'est le moment où on est mûr, en fait. Tous les fumeurs savent ça, un moment. Alors peut-être qu'effectivement, on rate une fois, on est mûr pour arrêter.
Ah, mûr, j'ai compris mou.
Ah non, alors mou des fois aussi. Des fois, on arrête mollement.
100% des fumeurs sont mûrs aujourd'hui.
Parfois, on arrête mollement. Je peux vous le confirmer, mais est-ce qu'il y a un moment où on est mûr, effectivement, où on se dit je peux arrêter, ou est-ce qu'il y a d'autres moments où est-ce qu'on s'invente des prétextes quand on se dit oui mais c'est pas le moment parce que je vais changer de boulot, parce que si, parce que ça, parce que là.
La précédente auditrice a bien expliqué qu'elle avait du mal à prendre la décision d'arrêter complètement parce qu'elle pensait qu'elle n'arriverait pas à le faire, ça lui paraissait impossible. Et c'est ça le message qui est transmis très souvent, c'est tellement difficile d'arrêter de fumer que les gens ne prennent pas de la décision de le faire. Or aujourd'hui on a plein de stratégies, il faut essayer, tester et faire des expériences d'arrêt du tabac pour prendre confiance dans le fait que c'est possible. Mais il faut quand même, il y a un sujet sur lequel on n'est pas complètement d'accord avec Bertrand Dotzenberg, c'est qu'il faut quand même avoir envie de le faire, mais c'est aussi à la société civile, aux médias et aux professionnels de santé de susciter cette envie de le faire chez les fumeurs.
Vous pensez, monsieur Dotzenberg, c'est pas la peine d'avoir envie, en fait. Il ne faut pas attendre d'avoir envie d'arrêter.
C'est beaucoup mieux d'avoir envie. Mais on a le témoignage du monsieur qui habitait en Corse. Il a dit ma femme est partie, je suis licencié, tout va mal, et j'ai arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais moment pour arrêter de fumer. C'est toujours le bon moment pour arrêter de fumer. Par contre, il faut se faire aider bien, et on peut le faire. Et moi, dans ma pratique de pneumologie, moi, 100% des fumeurs qui viennent, je leur explique qu'aujourd'hui, c'est le bon jour pour arrêter, qui viennent pour de l'asthme, qui viennent pour une pneumonie, qui qui viennent pour un n'importe quoi, c'est toujours le bonjour pour arrêter. Donc il n'y a pas à attendre d'être mûr, parce que arrêter de fumer, c'est soigner. Fumer, c'est être dépendant de la dépendance tabagique. La dépendance tabagique est une maladie mortelle, 50% de morts. Quand vous avez un cancer, vous dites, tiens, j'ai un cancer, bon, je vais attendre d'être mûr pour aller me soigner. C'est ce que disent les gens qui veulent faire la motivation à moi. Pour moi, tout fumeur dépendant doit être d'abord soulagé de sa souffrance de ne pas avoir de la nicotine et supprimer l'hypoglycémie pour la mettre l'hyponicotinémie pour leur mettre un taux de nicotine normal. Et après, on fait de la psychologie. Il y en a qui ont des problèmes psychologiques graves. Mais la plupart n'ont rien. La peur de la gestuelle et tout ça, c'est, les gens sont déçus. Les gens, quand on les traite bien, ils oublient de fumer le matin. Ils disent, zut, docteur, j'ai oublié de fumer ce matin.
Mince. Cette fameuse cigarette du matin qui fait peur à tout le monde, c'est la première pour laquelle la difficulté disparaît.
Bonsoir, Olivier.
Oui.
Vous êtes un vapoteur, Olivier. Allez-y, on vous écoute.
Oui, oui, oui. Alors, j'ai entendu là ce qui vient d'être dit, c'est exactement ça. C'est que, en fait, je me suis renseigné en fait sur la cigarette électronique après m'y être mis. Donc moi, je m'y suis mis il y a 5 mois. Et en fait, en me renseignant, j'ai bien compris sur différents sites qui vendent donc des cigarettes, mais je pense qu'ils ont vraiment vocation pédagogique, qu'il faut trouver donc le bon liquide, le bon taux de nicotine, quitte à mélanger. Moi, je sais que j'ai commencé avec 6 mg parce que je n'étais pas un gros fumeur, et j'ai pris aussi du 12 mg, et puis j'ai fait des petits mélanges pour avoir mon taux de nicotine qui me correspondait. Et il faut aussi la bonne machine qui correspond bien à ce qu'on cherche. Donc c'est toute une science, le vapotage, et il faut vraiment s'y intéresser pour comprendre comment ça marche et pouvoir arrêter. Moi, c'est par rapport à votre question, c'est comment les gens ont fait pour arrêter. Moi, j'ai arrêté pour la première raison, parce que un mois avant d'arrêter, je n'avais aucune envie d'arrêter, aucune. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai des problèmes de parodontie. Et je les ai fait traiter, et en fait, ma dentiste m'a dit qu'on n'était pas tous égaux devant la fumée de cigarette. J'ai 46 ans, et elle m'a dit, c'est pas compliqué, si vous continuez à fumer malgré les traitements, vous risquez, avec le tartre et les bactéries qui se glissent sous la gencive, et qui bouffent l'os qui mangent l'os de la mâchoire, vous risquez de perdre vos dents d'ici 10 ans. Donc ça a vraiment été le déclenchement. Et ça m'a pris. Je suis allé dans un magasin de cigarettes électroniques et j'ai trouvé, on m'a conseillé, je vais pas dire les marques, hein, mais il y a des cigarettes qui ne coûtent pas cher et qui sont très très bien, qui fonctionnent très très bien. Et après, faut aller sur des sites internet pour se renseigner comment ça marche, comment ça fonctionne. Et depuis, je n'ai pas retouché, j'ai retouché 3-4 fois des cigarettes. Et en fait, maintenant, je n'ai plus, aucune envie de fumer. Ça fait 5 mois que j'ai arrêté. J'ai plus aucune envie de fumer. Alors que un mois avant d'arrêter de fumer, je n'avais pas envie d'arrêter de fumer.
Et vous n'avez pas envie de lâcher la clope électronique non plus, Olivier,
si,
au final.
Ce qui se dit sur ces sites, c'est qu'il ne faut pas essayer de lâcher la cigarette électronique trop tôt. Et surtout, il ne faut pas essayer de baisser le taux de nicotine trop tôt. Parce qu'en fait, ce qui se passe, j'ai pas écouté le début de l'émission. Je ne sais pas si vos intervenants en ont parlé.
Non, pas encore, allez-y. Enfin, en tout cas, pas là-dessus.
La cigarette électronique, en fait, diffuse la nicotine de façon un petit peu comme les patchs, c'est-à-dire que ça va être va pas y avoir le pic de nicotine comme la cigarette, c'est-à-dire au bout de 1 minute, 4-5 taf, on va avoir un pic de nicotine dans le crâne, alors qu'avec la cigarette électronique, si j'ai bien compris, il y a que 15% de nicotine qui passe dans les poumons. Et en fait, la nicotine va se diffuser petit à petit. Qui fait que moi, je sais que le matin, quand je me réveille, j'ai plus cette envie de cigarette comme j'avais avant. Je fumais pas beaucoup de cigarettes, Je fumais entre 5 et 10 cigarettes par jour, déroulées. Mais par contre, quand je me levais le matin, j'avais qu'une envie, je pensais qu'à ça. Et là, depuis quelques temps, j'ai baissé légèrement mon taux de nicotine, je suis passé plus qu'à 6 mg. Là, je commence petit à petit à faire des mélanges entre 3 et 6 mg. Et je sens que j'ai plus du tout, en fait, ces envies de cigarette comme j'avais avant. Donc, petit à petit, je me dis, d'ici un an, j'essaierai d'arrêter l'e-cigarette. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, faut pas essayer d'arrêter trop tôt, parce que ça risque de, faut laisser le corps se déshabituer à la nicotine et à ces pics de nicotine qu'on avait quand on fumait des cigarettes. Et ça va se faire petit à petit.
Merci, Olivier. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage, Olivier Anborn. Vous confirmez ce que dit Olivier? Effectivement,
il a dû voir des bons sites internet, parce que il a parlé des shoots de nicotine, moi je dis shoot, c'est provocateur. Mais en effet, la fumée de la cigarette amène la nicotine dans les récepteurs, sur les récepteurs du cerveau en 7 secondes. C'est même pas une minute, c'est 7 secondes. Et donc, les récepteurs sont stimulés sans arrêt. La nicotine de substitution, qu'elle soit par patch, par gomme, par tout ce qu'on veut, ou par cigarette électronique, elle arrive lentement dans le cerveau. cerveau et elles restent plus longtemps, mais faut justement les nourrir, comme disait Bertrand Dotzenberg, faut nourrir ces récepteurs en permanence, et on les gave, mais on ne les stimule plus. C'est pour ça que l'envie de fumer disparaît. Et c'est pour ça que de prendre une cigarette de temps en temps, même si ça veut pas dire qu'on a fait un échec, mais que c'est un peu risqué parce qu'on restimule un peu nos récepteurs qui, du coup, se remettent à avoir faim de nicotine. Ne pas baisser son taux de nicotine rapidement, en effet, faut s'écouter, faut savoir le besoin, et de toute façon, à un moment, comme le nombre de récepteurs nicotiniques est moins appétant, ces récepteurs sont moins appétants pour la nicotine et qui disparaissent en nombre, du coup, le même dose de nicotine qu'on avait au départ, qu'on tolérait très bien, donne mal à la tête et la bouche pâteuse. Et donc, c'est le signal qu'il faut baisser.
Et Bertrand Dotzenberg, vous conseillez pas d'arrêter le vapotage ou, c'est pas la peine, en gros, même au bout d'un an, deux ans, trois ans, d'arrêter de vapoter?
Ah non, ça dépend le temps. La plupart des fumeurs passent fumeurs puis vapoteurs, et au bout de vapoteurs, ils arrêtent de vapoter. Il y a 2 800 000 Français qui étaient des fumeurs, qui ont vapoté et qui sont des ex-vapoteurs selon l'Eurobaromètre 2017. C'est-à-dire 2 800 000, c'est beaucoup. Et là, beaucoup de vapoteurs s'arrêtent, en particulier plutôt les plus de 45 ans et les plus âgés. Les jeunes, il y en a un certain nombre qui continuent la nicotine, soit parce qu'ils sont dans les 10-15% qui sont dépendants de la nicotine. Et comme on a 10-15% des gens qui prennent des gommes à la nicorette et qui prennent depuis 4-5 ans des gommes à la nicorette, on a 10-15% qui prennent de la nicotine en quantité importante. Et puis, il y a à peu près autant de vapoteurs qui vapotent quasiment que presque pas de nicotine, où là, ils sont dans le plaisir, dans la gestuelle. Et ça, c'est le plus souvent des jeunes un peu... souvent un peu geek et tout ça, mais tant qu'ils fument pas, moi je suis content.
Exactement. Et ce message sur franceinter.fr, j'ai arrêté de fumer, j'ai remplacé ce plaisir par un autre. Manger, je mange maintenant beaucoup et j'aime ça, j'attends les repas avec impatience, je n'arrête pas les pâtisseries, tout ça, etc. Forcément, l'un va souvent avec l'autre, on a toujours l'impression, on nous dit, même on nous explique, de toute façon tu grossiras forcément. Est-ce une fatalité?
Non, c'est pas une fatalité. Pluriel. C'est pas du tout une fatalité, et c'est un sujet sur lequel les professionnels qui accompagnent les fumeurs qui ont cette crainte, qu'on examine et qu'on suit avec beaucoup de précision et beaucoup d'attention. La prise de poids, l'arrêt du tabac, elle est liée au fait que la nicotine, ça augmente les dépenses énergétiques, que la cigarette est un coupe-faim et que, donc on va en arrêtant brutalement la nicotine, on est en manque, on a des pulsions vers le sucré, là vous parliez de gâteau, c'est des pulsions vers le sucré, absolument. On a une augmentation de l'appétit parce qu'on n'a plus la cigarette coupe-faim et on a perdu la dépense énergétique supérieure liée au métabolisme de la nicotine. D'où l'importance pour prévenir cette prise de poids, on revient toujours à cette fameuse nicotine, mais elle est très importante dans l'arrêt du tabac, parce qu'elle va aussi prévenir la prise de poids, prévenir les fringales, prévenir la déviation du goût vers le sucré. Et il faut au contraire utiliser les bénéfices ressentis rapidement à l'arrêt du tabac que sont retrouvés le goût et l'odorat pour apprendre à manger différemment. Mais quand on a des pulsions sucrées, mais même sans avoir envie de fumer, c'est un signe de manque de nicotine.
Monsieur Gottenberg.
Quand, il y a jusqu'à 2-3 ans, je demandais aux malades de faire des efforts, je les motivais, et mes malades, ils prenaient en moyenne 3-5 kilos. Depuis 2-3 ans, je leur interdis de faire des efforts, je leur dis que le plaisir est obligatoire et qu'il faut avoir la bonne dose de nicotine, et tant qu'ils peuvent fumer une cigarette en entière, c'est qu'ils sont sous-dosés en nicotine. Et il y en a à qui prennent 1 ou 2 kilos, il y en a qui perdent 1 ou 2 kilos, parce que tous les gens tellement perdent de prendre du poids qu'ils font des régimes en même temps. Je dis pas que c'est mon traitement. Et en moyenne, j'ai eu un malade depuis un an qui a pris plus de 3 kilos. C'est exceptionnel si on fait 0 effort. Donc il faut pas faire d'effort, il faut se faire plaisir. Avec du plaisir, en arrêtant de fumer avec la bonne dose de nicotine pour les fumeurs dépendants, on arrête par plaisir, on n'est pas énervé pour les autres, et il n'y a pas de raison de ne pas se faire du bien. Et donc la cigarette électronique, et j'ai appris ça avec les vapoteurs.
Hein, ne faites aucun effort, je vais retenir cette phrase, je pense que je vais me la faire tatouer même.
Moi pour les ordonnances, je marque fumez autant que vous voulez, ne faites aucun effort pour fumer.
Vous allez me
moins,
le répéter, je vais l'utiliser comme sonnerie de portable, vous allez voir, ça va être formidable.
Je vous offre mon bouquin, je vous fais l'ordonnance en fin d'émission, si vous voulez.
Ça y est, moi pour l'instant, Patricia, bonsoir.
Pour vos copains.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute, Patricia.
Oui, alors, vous avez évoqué la maturité tout à l'heure, donc moi je pense que j'y suis parce qu'il m'a fallu quand même 45 ans pour prendre ma décision. J'ai tout essayé. J'avais les patchs, la cigarette électronique. Bon, après, maintenant, j'ai entendu tout ce que les auditeurs ont dit sur les progrès de cette cigarette électronique. Mais moi, j'y suis arrivée par l'hypnose. Et contre toute attente, parce que j'y suis allée un peu comme Olivier tout à l'heure, un mois avant, j'étais pas du tout sûre que je voulais m'arrêter de fumer. Il y avait eu une grosse campagne en novembre où on nous disait...
Moi sans tabac.
Oui. Voilà, c'était moi sans tabac. Et bon, rien que pour enquiquiner, parce que comme on nous le rabâchait tous les jours, je fumais littéralement un paquet.
Mais moi aussi, je vais tout vous dire, j'ai arrêté au mois de décembre, juste pour pas arrêter en novembre.
Je ne vais pas subir cette injonction, voilà. Et puis en fait, le fait décisif, ça a été le soir de Noël. Je me suis retrouvée toute seule dehors. On était en famille. Hein. Ouais. Mes enfants ont arrêté depuis un certain temps.
À fumer comme une imbécile ans. Alors qu'il faisait un froid de
gueule. Voilà. Enfin, encore, il faisait pas très froid cette année. Pourtant, voilà, on est en Lorraine. Mais j'ai regardé par la fenêtre et je me disais, mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que tu fais dehors à fumer ta clope, quoi. Et là, ça m'a fait. Alors, je suis rentrée, j'ai dit à ma fille, écoute, je crois que je suis prête. Allez. Prends-moi rendez-vous chez ton hypnotiseuse, puisque bon, ma fille avait arrêté comme ça. Et j'y suis allée en février 2017. Voilà. Donc ça fait un an. Et je n'ai, et tout à l'heure vous évoquiez, j'avais très peur de cette première clope du matin qui est comme un. Je ne pense plus du tout au tabac. Jamais.
Eh bien écoutez, bravo Patricia, vous avez de la chance. L'hypnose, pourquoi pas, Anne Born? Pourquoi pas l'hypnose?
Alors, pourquoi pas l'hypnose? La preuve, je vais pas dire le contraire avec le témoignage très intéressant qu'on vient d'entendre. Nous, quand on disait de Mergue et moi, on est médecins. Donc on voit ce qu'on appelle des patients qui ont une dépendance tabagique et qu'on va traiter. On voit pas ceux qui font de l'hypnose et qui arrêtent tout seuls. Nous, on voit des gens qui sont en difficulté avec leur arrêt. Et il y a des recommandations scientifiques, et dans les recommandations scientifiques, l'hypnose n'en fait pas partie. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement médical. Mais on sait bien qu'il y a plein de fumeurs qui vont arrêter sans traitement, sans aide. Les stratégies qu'on a aujourd'hui et qu'on peut utiliser, elles sont faites pour les gens qui n'arrivent pas à arrêter seuls.
Monsieur Dotzenberg.
Non, il y a beaucoup de gens qui arrêtent tout seuls sans un coup de tête et on peut arrêter. Et en plus, l'effet placebo est efficace.
C'est vrai que l'hypnose, c'est placebo, en fait. Non, mais pourquoi pas, hein, je veux dire.
On a la preuve que l'effet placebo est utile pour arrêter de fumer. On a, avec l'acupuncture, des essais qui ont été faits. On fait acupuncture, pas d'acupuncture. Ceux qui vont en acupuncture arrêtent plus de fumer que ceux qui ne vont pas. Par contre, si on fait l'acupuncture au bon endroit ou au mauvais endroit, c'est pareil. Donc, le fait d'aller voir un acupuncteur qui vous prend en charge, qui vous dit, je vais remettre les tensions dans le bon ordre et tout ça, c'est quelque chose de favorable. Là, en plus, elle a été faire une technique avec sa fille qui avait fait la technique et qui avait réussi. Mmh. Elle avait très envie de le faire, donc elle avait une motivation. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Ce n'est pas la méthode recommandée, parce que c'est une méthode qui marche moins souvent que les autres, mais qui peut marcher. Hein. Et le placebo marche pour l'arrêt du tabac. Et de le faire tout seul, ça marche aussi. Mais on peut accoucher sans péridurale. C'est mieux avec péridurale, c'est tout. Je veux pas...
La comparaison a probablement résonné aux oreilles de beaucoup de gens autour de vous. Bonsoir Yolande.
Bonsoir. En fait, moi j'appelais parce que j'ai arrêté il y a un an. Alors, je fume depuis l'âge de 11 ans. J'en ai 52. Et j'ai arrêté il y a un an suite à une occlusion intestinale. J'ai frôlé la mort et j'ai eu très peur. En plus, je commençais à perdre mes dents. Donc, c'était un facteur favorisant. Et puis, ça a tenu 3-4 mois. Et au bout de 3-4 mois, j'ai repris la cigarette de façon identique à ce que je consommais avant, c'est-à-dire une forte consommation. Et depuis que j'ai repris, je me torture pour arrêter de nouveau. Et je pense à l'hypnose.
Mais vous vous torturez toute seule apparemment, Yolande. Pardon de vous interrompre. Vous torturez toute seule apparemment.
Oui, c'est possible, mais j'arrive pas à redéclencher l'arrêt.
Mais vous avez vu un tabacologue ou pas ?
J'ai déjà vu un tabacologue, mais en dehors de mesurer mon taux de CO2, je n'avais rien d'autre que ce contact.
D'accord.
Mais il faut trouver un tabacologue. Faut trouver un tabacologue qui vous aime et qui a un bon contact, qui veut vous aider, et puis ça marche très bien.
Mais en fait, ce que je trouve effarant, c'est que c'est vraiment cette confrontation à la mort qui m'a déclenché la notion d'arrêt. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrême.
Ça veut dire que vous avez besoin d'un autre stimuli aussi violent que celui-là, en fait. C'est ce que vous pensez, mais sûrement vous n'avez pas besoin d'autant, en fait.
Non, mais là, vous avez une maladie grave, parce qu'on sait que sur une étude sur 1 million de femmes, la moitié des femmes qui fument et qui fument toute leur vie vont mourir à cause du tabac et vont perdre 22 années de vie en bonne santé. Si on s'arrête de fumer même à 55 ans, au mieux de perdre 22 années de vie, on en perd 3. Donc on en a récupéré 19. Donc ça vaut le coup pour récupérer 10 années de vie. Si votre tabacologue, il n'est pas bon, vous en allez voir un autre, un troisième, un quatrième, vous débrouiller pour trouver quelqu'un qui vous soigne, mais il ne faut pas rester dans la souffrance comme vous êtes, c'est idiot.
Allez-y, Yolande.
Je dis, les tabacologues sont rares. Les services sont tous débordés, il y a très peu d'offres.
Non, vous faites...
Vous habitez où, Yolande ?
Au Havre.
D'accord. Non, parce que c'est peut-être plus difficile, Anne-Borne, dans certaines villes. Alors, Le Havre est une grande ville, mais il y a peut-être des endroits où, c'est, où le tabacologue est plus accessible alors, que d'autres.
Il y a une très bonne équipe à Caen.
Il y a une très bonne équipe à Caen, c'est ce que j'allais dire aussi. On a des collègues qui travaillent à Caen qui sont excellents, au CHU de Caen. C'est typique du besoin, parce que des tabacologues, en effet, il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas assez pour tous les fumeurs, sauf que tous les fumeurs n'ont pas besoin d'un tabacologue. Mais cette auditrice, elle a besoin d'un tabacologue, il faut vraiment qu'elle soit aidée. Elle est dans cette peur de la mort, dans cette ambivalence, dans cette culpabilité de continuer à fumer alors qu'elle a frôlé la mort, mais de pas réussir à s'arrêter. Donc il faut vraiment à la fois une stratégie médicamenteuse de la nicotine, une cigarette électronique et un soutien pour renforcer sa confiance en elle et l'accompagner dans cette stratégie. Ça peut être aussi fait, il y a de plus en plus de gens qui sont formés à la tabacologie sans être des tabacologues. Donc on peut essayer de voir un médecin généraliste qui connaît, une infirmière qui a eu une formation. Enfin, aujourd'hui, les formations en tabaco se répandent de façon importante, d'autant plus que maintenant, les substituts nicotiniques peuvent être prescrits par d'autres professionnels que les médecins. Donc les infirmières, les kinés, les sages-femmes, les dentistes se forment à la tabacologie.
Moi, c'est marrant, Yolande...
Ils sont remboursés, en plus.
Ouais, Yolande a 52 ans, on a eu d'autres auditeurs qui avaient une cinquantaine d'années. On a l'impression que, à peu près dans ces tranches d'âge-là, Olivier avait 46 ans, etc., on a l'impression que c'est cette tranche d'âge-là, en fait, à la fois c'est celle qui a le plus de fumeurs, visiblement, d'après ce que je crois lire sur les statistiques, mais c'est aussi celle qui arrête, en fait.
Oui, mais c'est l'âge moyen de consultation en tabacologie est de 46 ans. C'est l'âge où on arrête. C'est-à-dire, tous ceux qu'on voit, c'est ceux qui ont essayé 3-4 fois, qui n'ont pas réussi, qui viennent arrêter.
Mais du coup, qui ont commencé super tôt également.
Plus on est dépendant. Mais de voir quelqu'un qui reste en grande souffrance sans traitement, moi, comme médecin, je me sens mal sur l'organisation du système de santé qui laisse des gens souffrir bêtement, alors que c'est facile de la soigner si on fait bien et si on la prend en charge, si on explique bien les choses. Donc, c'est du gâchis.
Romain, c'est vous le dernier. Question importante, allez-y, on vous écoute.
Bonjour, Romain, donc j'habite en Île-de-France. Mm-hmm. J'ai arrêté de fumer une première fois en 2013-2012 avec Champix, un médicament. Je ne sais pas si ça parle autour de votre table.
Bien sûr, tout à fait.
Et ça a marché très bien, 2-3 ans. Et un jour, j'ai repris une cigarette comme ça parce que je me suis dit, c'est bon, maintenant c'est passé, tu peux avoir une petite cigarette plaisir. Et je me suis retrouvé au bout de 24 heures ou une semaine à racheter un paquet de cigarettes.
Vous êtes donc un être humain normal.
Rassurez-vous,
réveillez vos récepteurs.
Voilà, c'est ça, mais je veux dire, est-ce qu'on reste toute notre vie un ancien fumeur et quels sont les effets un peu, parce que du coup j'ai réarrêté de fumer grâce à Champix encore. Et est-ce qu'on reste un ancien fumeur toute sa vie et quels sont les effets secondaires de Champix, parce que
on a dit beaucoup de choses, effectivement. Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est important votre question, Romain. Merci beaucoup, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur le Champix, que ça avait des effets secondaires terribles, dépression, etc. Est-ce qu'on balaye tout ça?
Alors, on peut maintenant balayer complètement sur. Alors, je voulais d'ailleurs préciser que ni Bertrand ni moi n'avons de conflit d'intérêt, en tout cas moi, je ne parle pas pour Bertrand, de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, parce que si on ne le dit pas, on se fait attaquer derrière. Donc, je n'ai pas de conflit avec l'industrie, ni cigarettière, ni pharmaceutique. La varenicline, donc le Champix, c'est un très bon médicament qui va aller justement se fixer sur ces fameux récepteurs nicotiniques. C'est une espèce de super nicotine en sous forme de comprimé, avec une efficacité importante et une simplicité d'utilisation. Il avait été accusé notamment de tentative de suicide ou de suicide chez les patients qui l'utilisaient. C'est le tabagisme et la dépendance tabagique qui est un facteur de risque de suicide. Les fumeurs dépendants ont 4 fois plus de chances de faire une tentative de suicide au cours de leur vie. Donc c'est un médicament bien toléré qui est maintenant aussi remboursé par l'assurance maladie, alors uniquement sur prescription médicale, contrairement aux substituts dont on disait que les infirmières, les kinés, etc. pouvaient le vendre. Donc là, c'est le prescrire, pardon. Là, c'est uniquement une prescription médicale.
La suite de la question de Romain, très très rapidement, on reste un fumeur toute sa vie, Bertrand Dotzenberg.
Quand on a été fumeur dépendant,
on n'a pas le droit à une petite taf de temps en temps.
On est toute sa vie fumeur, comme un alcoolique qui a bu du vin rouge au petit déjeuner. Quand après, c'est un alcoolique qui ne boit pas, un fumeur qui a fumé au petit déjeuner. Ça reste toute sa vie un fumeur qui ne fume pas. Ça s'appelle un ex-fumeur, plus jamais, jamais une clope.
Voilà, j'aime pas qu'on dise alcoolique, on dit alcoolo-dépendant.
Très bien, voilà. Et on n'aime pas dire repenti, mais au final, c'est pareil. Tiens, allez, cette dernière question. Ma compagne a réduit de moitié sa consommation en utilisant la méthode téléphone sonne. Figurez-vous, elle fait sonner son téléphone toutes les 90 minutes et s'autorise une cigarette. Elle est ainsi passée à 20 cigarettes par jour, de 20 cigarettes par jour à 8 cigarettes. Autour de moi, on dit que 8, c'est déjà trop, évidemment. Mais moi, j'aime bien l'idée d'une méthode qui s'appelle téléphone sonne. Voilà, c'est comme ça. Portez-vous bien. Merci à tous.